Aujourd'hui, j'ai envie de commencer la philosophie avec de la théologie. Parce que nous, si vous voulez, on est quand même chrétiens, et dans notre expérience humaine, il y a un rejaillissement. Dans notre côté humain, corporel, spirituel, affectif, etc., dans ce qu'on comprend des choses, dans notre intelligence, il y a plein de rejaillissements de ce qu'on vit par la grâce, par la foi, sur l'aspect humain qui est en nous. Et presque ce que j'aurais voulu faire, au moins un tout petit peu, en attendant que de continuer, la question de l'être en acte, de l'énergeia et de l'intellekia, de l'intellégie, de l'énergie métaphysique qui est en nous. Alors, comment cette énergie, cette intellégie qui est en nous, vient déployer dans le concret de notre existence métaphysiquement parlant. Bon, avant, je voudrais quand même voir qu'effectivement, on atteint en nous une perfection extraordinaire dans le point de vue de l'être, une fois qu'on l'a touché, qu'on est rentré dans cette existence, ce qui est intouchable, ce qui est irrenversable, ce qui est parfait en nous, et ce qui l'est perpétuellement, et qui met en même temps en nous, dans notre personne, une capacité continuelle à être en harmonie concrète avec cette perfection métaphysique. Il y a quelque chose d'actuel en nous. J'existe actuellement. Et le fait que j'ai touché en moi le point de vue de l'être fait que, en même temps, je constate dans le concret que je suis en même temps un saint, puis en même temps une fripouille, hein, du point de vue de l'être. Existentiellement, je suis en même temps un saint, et puis en même temps, fêlé, complètement fêlé. Dans le concret, c'est comme ça. Métaphysiquement, je suis actuellement, j'existe. Ah, quelque chose de tragique qui est en nous, n'est-ce pas? Mais à cause de notre foi chrétienne, je viens concrètement mettre toute ma personne, tout mon être, toute mon existence, toute ma vie, dans le feu de l'être premier, et puis du « je suis » de Jésus, ressuscité d'entre les morts, qui lui est totalement en acte. Il est actuellement en acte. Je ne sais pas comment dire. Hein. Donc il y a tellement énergie, entélégie, et en même temps, mais méta, si vous voulez, méta, méga, au cube. Il est en entélégie, au cube. Il est complètement, il est méta sur énergeia, sur entélégie, sur intellekia, vous voyez, une espèce de tremblement de terre extraordinaire. Et nous, lorsque nous engloutissons, si je puis dire, mystiquement, c'est bien clair, c'est par un dynamisme vital par lequel on se laisse complètement prendre, métaphysiquement, notre métaphysique, j'allais dire, explose dans le point de vue, donc, du méta sur méta, si vous voulez, hein. Déjà, habituellement, on est complètement immergé dans le devenir, dans le sensible, dans le concret. On est immergé dans des choses qui passent, qui sont transitoires, on est fêlé, ça ne marche pas, on dérape à droite, à gauche, à tous les points de vue. On cherche la vérité, on ne la trouve pas. On est aspiré à l'amour, à l'extase, on ne touche pas l'extase. Pourtant, de temps en temps, bah, un petit flamme, ouf, ça va être bon. On touche, on saisit ce que c'est que la perfection actuelle, de l'énergie, l'entélégie de l'être, vous voyez, puis ça nous échappe aussi, n'est-ce pas? Le corps lui-même, ça y est, on se trouve en face de notre corps spirituel, épanoui métaphysiquement, et puis pouf, on retombe dans un corps qui est lié au cosmos, cette espèce de corps terrestre, vous voyez, du côté du corps, on fait cette expérience tout le temps, enfin, pas tout le monde, il y a beaucoup de gens qui disent, hier soir j'étais avec une femme qui me dit, votre corps, ouais, pourtant je n'avais pas eu l'impression de parler jamais à aucun moment du corps spirituel, mais elle m'a dit, vous avez parlé du corps spirituel, j'ai dû prononcer le mot une fois comme ça, c'était pas du tout le sujet. Je dis, moi je suis médecin, vous comprenez, vous avez parlé du corps spirituel, elle me dit, ah bon, j'ai parlé du corps spirituel, je dis, moi je suis médecin, moi je ne vois pas de corps spirituel, quand je vois des corps qui sont malades, extraordinaire. Il y a plein de gens dont la spécialité concrète, si vous voulez, c'est le corps. Et croyais pas du tout ce que c'était que le corps spirituel, ce que le corps humain, quoi. Un corps qui éclate métaphysiquement, le corps spirituel. C'est vrai que la multitude de ceux qui n'ont pas fait le jugement d'existence ne peuvent pas atteindre jamais concrètement le corps spirituel. Et en plus, nous savons, nous, par expérience, que si on n'est pas brûlé par le point de vue surnaturel de la grâce, alors là, il n'y a aucun danger qu'on puisse toucher définitivement le corps spirituel. Impossible. C'est curieux, cette espèce d'expérience. Alors, vous voyez bien que, ici, si vous permettez, donc, je garde 5, 6, 7 minutes pour remonter. Et on va démarrer là-dessus. Si vous voulez, d'habitude, on démarre plutôt d'en bas, jugement d'existence, pour monter. Mais là, aujourd'hui, je voudrais faire un truc avec vous. C'est démarrer d'en haut, notre inaccessible. Il y a quelque chose d'inaccessible, mais que nous, auquel nous accédons grâce, justement, à ce qui paraît le plus inatteignable par la puissance de l'homme et par la perfection de l'homme, le point de vue de la surnature de la grâce. Le feu qui brûle dans l'incréé, en dehors du temps et de l'espace, le corps du Christ dans la résurrection. Et lorsque je touche physiquement ce feu surnaturel qui dépasse complètement tous les horizons de notre expérience humaine, bon, eh bien, je vis, voyez bien, comme nous ici, on fait quand même de temps en temps l'expérience, hein, heureusement, de cette espèce de rencontre fulgurante, puis en même temps très 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 délicate, très savoureuse, très cachée, impossible à décrire, de cette glorification du corps. En germe seulement, c'est vrai, c'est pas complètement éclaté dans l'épanouissement définitif, mais en germe, de temps en temps, pof, et on ne peut pas ne pas voir que c'est vrai. Si on en fait l'expérience ou pas, ça c'est sûr. Hein. Et on en fait l'expérience dans les sacrements. Donc vous voyez bien, quand je vis des sacrements, et je vais jusqu'au bout, la substance même de l'éclatement du sacrement dans son terme, dans son fruit, je fais l'expérience que le corps brûle, le cœur est dans l'extase, l'intelligence est dans son repos, dans la lumière, une lumière absolue, et tout est en mouvement dans la passivité substantielle. J'en fais l'expérience de ça, chaque fois. C'est pour ça que dans les sacrements, nous avons vu, vous avez vu, vous vous rappelez que à chaque fois, il y a ce quintuple épanouissement de l'acte. Toujours cinq. Cette espèce de perfection, notre existence éclate. Vous voyez, la substance qu'on a découvert avec Aristote, puis avec notre propre induction, elle reste quand même très 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 immanente. C'est un mot un peu bizarre, hein, mais immanente, c'est-à-dire c'est tout à fait à l'intérieur de l'être qui structure au point de vue du fait que j'existe et qui fait que la vie qui est en moi est complètement relativisée. L'ousia, la substance, relativise l'essence vitale de l'homme. Ça, tout le monde comprend ça. Bon, je m'excuse, c'est les mots qui sont compliqués, mais l'aspect concret est très très évident. Hein. Mais voyez bien, quand je saisis en moi la substance, dans le fait que j'existe, je reste complètement dans ce qui structure le fait que j'existe du point de vue de l'être. À ce moment-là, il y a quelque chose qui fait que ça y est, j'ai trouvé ma dignité, j'ai trouvé la plus grande richesse qui soit, et il est possible que mon intelligence puisse se lier dans un seul acte avec mon corps pour sourire. C'est impossible de sourire si on n'a pas saisi la substance. Ou alors, c'est un sourire forcé. Sourire conventionnel, sourire artistique, sourire cinéma, sourire américain. Mais sourire américain, c'est très bien. Sourire Claudia Schiffer, sourire. Mais sourire personnel, vous voyez, ce sourire personnel qu'on saisit quelquefois, vous savez, de temps en temps, le petit nourrisson, la première fois qui fait un jugement d'existence. C'est extraordinaire, ça. Et on se rappelle la première fois. Il faut se rappeler, mais il faut faire ce jugement d'existence. Saisir l'osia. Une fois qu'on a saisi l'osia, on saisit en même temps, au-delà, on se dit, mais d'où ça vient, ça? On voit que ça vient de rien du tout. Parce que d'où ça vient, il n'y a pas d'avant et d'après. Il n'y a pas de devenir dans l'ordre de la substance. Mais en quoi c'est fait? Il n'y a rien, rien qui l'explique du point de vue de la cause efficiente. Rien qui l'explique du point de vue de la matière. Rien qui l'explique du côté de la cause exemplaire. Ça, c'était comme ça. La métaphysique. Mais il y a pourquoi. Et comment ça se réalise? On ne sait pas. Comment se réalise le point de vue de la substance? Comment un homme vient à la vie? On y arrive. Comment on arrive, ça se conçoit, un être humain, on y arrive assez bien. Mais pour, on en arrive forcément à se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si puissant? Pourquoi c'est si puissant le jugement d'existence? Pourquoi je ne commence à respirer que dans le point de vue de l'être. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Réponse, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Mais je dis, pourquoi? Parce que l'être a quelque chose de si parfait en lui-même, et pourtant, dans le concret, cette perfection ne se réalise pas. Je suis un être en puissance, un être en acte, dans toutes les directions où je saisis le jugement d'existence. Et donc je saisis tout de suite, par l'induction que nous avons eue la dernière fois, la différence extraordinaire qu'il y a dans le point de vue de l'être, voyez, la vie est autre chose, la vie, hein, la vie, c'est tout à fait autre chose. Dans le noyau du jugement d'existence, il y a quelque chose de substantiel, de subsistant, qui m'individue, bon, et qui est totalement distinct du point de vue de la vie en moi. Certes. Pourquoi je perçois donc qu'il y a dans ma vie, je suis en puissance à cet acte. Il y a en moi énergie, energeia et entelekeia. Donc ça, on avait vu ça la dernière fois, je ne reviens pas dessus si vous vous permettez, parce qu'on ne va pas revenir 800 fois sur la même chose. Il y a un enracinement de la perfection métaphysique en moi, entelekeia. Et il y a en même temps une transcendance de cette perfection par rapport à moi. Vous voyez, il y a un... Aristote, pardon?
C'est Paul.
Ah, enchanté. Alors, il y a un... Comme dit Aristote, n'est-ce pas, dans le livre d'État, il y a le pros et il y a le haine. Vous voyez, il y a une transcendance extraordinaire. Cette perfection, vous voyez, elle me transcende. Et pourtant... C'est la mienne. Cette transcendance de la perfection métaphysique, c'est pas Dieu. C'est ça le très gros problème, vous voyez. Le très très gros problème philosophique, métaphysique, en philosophie première, je dis bien en philosophie première, parce que c'est ce qu'il y a de plus fondamental en philosophie. Si je n'ai pas saisi l'entelekeia et l'energeia, je ne pourrai jamais rentrer en philosophie. C'est impossible. Ça, c'est l'accord absolu de tous les philosophes. De Aristote, en passant par Hegel, n'est-ce pas, et surtout Heidegger aujourd'hui, et puis finalement Clavel qui dit « impossible ». Il dit « je n'arrive pas à saisir le point de vue de l'intellectuel, donc c'est impossible ». Il n'arrive pas à saisir le point de vue de l'intellectuel parce que pour lui, Kant est au-dessus de tout. Moi, j'aime beaucoup Clavel. Hein. J'étais un admirateur de Clavel quand j'avais, il y a 20 ans, hein, 25 ans. J'étais un copain, n'est-ce pas? Bernard-Henri Lévy aussi, c'est ma génération. Mais alors, il est un peu nouille, hein, au point de vue philosophique. Bon, oui, mais il faut bien le dire, il faut bien le dire. Je l'aime bien, mais enfin, c'est un type qui brille. C'est pour ça qu'il s'engage dans le monde, ce qui est très bien. Mais philosophiquement, il est nul. Ça, c'est clair, il le reconnaît lui-même. Et son copain Glucksmann, vous savez, on a fait 68 ensemble. Bon, et mieux. Glucksmann, il le dit, par exemple, vous voyez, que c'est le livre Theta d'Aristote, avec cette espèce de découverte du jugement d'existence, et dans le jugement d'existence, l'induction, la découverte de l'energeia, l'entelekeia. Impossible, sinon, de rentrer en philosophie première. Et si je ne rentre pas en philosophie première, la première étape de la philosophie, qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est ce qui fait que d'un seul coup, mon humanité s'ouvre. Au lieu de rester fermée, elle s'ouvre. Elle devient humaine. Mon existence vitale devient humaine. À ce moment-là, je peux faire la philosophie seconde, l'éthique. Mais si je n'ai pas découvert la philosophie première, comme dit Heidegger, si je n'ai pas découvert Glücksbahn, alors il ne reste plus que quoi? La pratique. Il faut faire ça. L'éthique. Il faut faire ça. Je suis regardé hier, il y avait une émission de télé entre minuit, une heure du matin et deux heures du matin, du professeur Lipovski, qui est un juif merveilleux, le maître à penser d'Israël et tout ça. Bon, philosophe. Et, plus ou moins, religieux, quoi, hein, il avait là. Eh bien, pendant une heure, il a dit la chose suivante, qui est vraiment la philosophie absolument universelle aujourd'hui, c'est-à-dire l'anti-philosophie, l'anti-sagesse, l'anti-réalisme, mais sympa quand même, j'aime beaucoup ce professeur Lipovski, je me suis régalé, même si j'étais crevé, parce que 2h du matin, on va dire. Enfin, pendant une heure, il n'a pas cessé de répéter, ben voilà, il y a l'existence. Ben, l'existence, c'est pas une valeur. Il y a la vie, ben, la vie, c'est pas une valeur. Il y a le monde, ben, le monde, c'est pas une valeur. Il y a l'humanité, c'est pas une valeur. Il y a la communauté, c'est pas une valeur. Ça, c'est pas une valeur. Ça m'est donné, c'est tout. La valeur, c'est ce qui dépasse tout ça. Et ce qui dépasse, c'est ce qu'il faut. C'est pas ce qui est. C'est ce qu'il faut que ce soit. Hein? Il faut dépasser le donné pur, notre existence, la communauté, etc., et se battre pour aller dans ce qu'il faut qu'il soit. La seule valeur, c'est quand l'homme rend un culte à Dieu. C'est extraordinaire qu'ils disent ça. L'homme tout seul, l'homme religieux, et l'homme religieux qui a la foi, etc., zéro. C'est pas une valeur. La valeur, c'est qu'il rend un culte à Dieu. C'est extraordinaire. Et pour lui, l'être, c'est rien du tout. La perfection dans l'ordre de l'être, c'est rien du tout. Vous voyez, finalement, tout se ramène à l'éthique, la morale, il le faut. Et pendant une heure, ça s'est répété, c'est extraordinaire, ce bonhomme 82 ans, là. Extraordinaire. Le maître à penser d'Israël, le maître à penser d'Ibn Aybarit, le maître à penser, un des grands maîtres à penser actuellement de notre univers. Il répétait la chose tout le temps pendant une heure. Je me disais, mais comment ça se fait que pendant une heure, il laisse parler, c'est pas pour répéter tout le temps ça, sans arrêt, comme une idée fixe. Il n'y a plus que l'éthique, la métaphysique, la philosophie première. Il ne reste plus que ça, sortir du réalisme pour rentrer dans la Torah, la loi. Cette espèce de laïcisation de la pensée d'Israël, que la loi transcende tout, c'est la seule valeur. Même Dieu doit se soumettre à la loi, à la Torah. C'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, là. Fabuleux. Vous voyez, à partir du moment où la tradition d'Israël s'est à lâcher la grâce messianique, non, laissons-la parce que c'est embêtant, tu vois, la grâce messianique. Hein? C'est ce qui structure la substance même d'Israël, ce qui structurait toute son attente, ce qui structurait tous ses sacrements, toute son zikaron. Et à partir du moment où je laissais tomber l'aspect de la vérité de l'écriture, cette promesse, cette attente, ce pros, cette tendance vers, cet enracinement par la grâce du Messie, à partir du moment où je l'ai tombé, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est la Torah. Tout le reste n'est pas une valeur. Le Messie, ce n'est pas une valeur. Alors si je laïcise ça en philosophie, vous voyez, c'est extraordinaire. Si je laïcise ça, si je laisse tomber le Christ, le Messie, etc., je laïcise, je transforme les mêmes mots, mais je le mets en philosophie. Vous voyez, ce n'est pas de la religion. Eh bien, ça donne ça. Ça donne la philosophie contemporaine, qui est une philosophie, vous voyez, éperdument tragique, parce que je laisse tomber ma substance, je laisse tomber mon attente, je laisse tomber ma transcendance qui structure toutes mes perfections dans l'ordre surnaturel. Hein. Mais si je l'ai ici, ce sera dans l'ordre naturel. Et du coup, bah, voilà, il ne me reste plus que, il faut que je réalise autre chose. Il faut que je réalise ce qu'il faut que ce soit. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut exactement qu'on réalise que ce soit, j'en sais rien. Hein. C'est pas, il faut aller vers autre chose. Donc, c'est, voyez, c'est très fort, mais c'est de l'éthique. C'est moral, si vous voulez. C'est une espèce d'aspect moral, mais une espèce de morale qui cherche à aller plus loin même que la moralisation. C'est l'éthique. Alors, ça domine, ça. Quand c'est la foi chrétienne, quand c'est la foi chrétienne qui se laïcise, c'est une catastrophe aussi. C'est une très grande catastrophe pour l'intelligence, le cœur, le corps et tout ça, ça. Une laïcisation qui vient de la foi. Parce que c'est faux. Ce qui est vrai sur le plan de la foi n'est pas vrai dans le degré inférieur des réalités physiques et corporelles et substantielles. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que la foi nous met dans le monde de la vie. Surnaturel. Pas dans le domaine, si vous voulez, de la métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique surnaturelle. Ça n'existe pas, la physique surnaturelle. Alors, si je laïcise, vous voyez, la confusion que je fais, incroyable, entre l'être et la vie, terminée. L'intelligence ne peut plus arriver à devenir humaine, à être contemplative et à saisir quoi que ce soit du point de vue métaphysique. Ça, c'est dramatique, hein. C'est le tragique de la situation contemporaine avec cette insécurité totale. Oui.
C'est peut-être pas pour cette vision de choses déformée, mais politiquement correcte, que les journalistes, quand ils expriment des critiques sur l'enseignement du pape, l'intervention, je vois toujours que l'aspect éthique, moral.
Oui, c'est sûr que c'est un espèce. On est face. Disons, au niveau de la civilisation, bon, ben, on est face à un phénomène névrotique collectif, quoi, hein, avec des phénomènes d'agressivité et tout. C'est sûr, hein, c'est sûr. Et tout est placé sur le plan moral. Tout est placé sur le plan moral, jamais sur le plan du réalisme. Hein, jamais. Et c'est normal, on ne peut pas demander aux gens qui sont éduqués par une ontologie fondamentale de saisir les choses autrement que les pauvres. C'est pas commode, hein, c'est vrai. Alors que la proclamation de l'ontologie, hein, parce que pour le pape c'est de l'ontologie, c'est pas de la métaphysique, se place quand même sur un plan tellement différent du point de vue moral que c'en est, on pleure quand on voit des gens qui sont censés être intelligents réagir, dire des choses incroyablement bêtes. Ah ben les exégétiques, non, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire les exégétiques. Alors, donc, nous ici on est en philosophie, donc j'essaye simplement de regarder avec vous. Quand c'est la foi chrétienne, justement, qui est, ramassée sur le plan philosophique. Bon, comment est-ce que je vais traduire la foi chrétienne? Elle va dire, bon, ah ben voilà, d'accord, j'existe grâce à la créateur de Dieu. C'est d'accord, ça c'est... J'existe. Mais ma vie, elle m'est donnée aussi par Dieu. Mon être en ce moment est créé par Dieu. Ma vie, elle m'est donnée par Dieu. Vous voyez, création, donation. Bon. Et par ailleurs, comme il y a, c'est la foi qui dit ça, hein, comme il y a, c'est l'expérience aussi, remarquez bien, comme il y a une espèce de fêlure métaphysique qui fait que mon ontologie vitale et ma métaphysique existentielle ne sont pas en phase. Alors, le Christ vient pénétrer la grâce surnaturelle, vient pénétrer dans la fêlure pour faire l'unité, potentiellement, et en acte, dans la finalité. Voilà ce que c'est que la foi chrétienne, d'accord? Bon. Alors, donc, si c'est la foi chrétienne, elle vient introduire dans cette espèce de fêlure, là, hein, une espèce d'une petite, c'est pas une fêlure totale, hein, c'est pas une fêlure totale, on n'est pas totalement fêlé, hein, un petit trou. Un petit trou. Là, il est ici. Vous voyez? Là. entre l'aspect de mon ontologie vitale et de ma métaphysique existentielle, n'est-ce pas? Attends, gardez l'expression, ça en jette. Hein. Mais ça en jette pour vous, je veux dire, les autres m'en fous. Hein. Alors, parce qu'il s'agit de comprendre, moi, je ne suis pas là pour en jeter plein la vue, et, ni vous non plus, il s'agit quand même d'être humainement éveillé, quoi. Alors, vous comprenez que si, philosophiquement, c'est inacceptable, le Christ, philosophiquement, le Christ, ça ne va pas. C'est la foi, donc, s'il vous plaît, on met le Christ entre parenthèses, d'accord? Et on va traduire ça en langage philosophique. Alors, en langage philosophique, ça va donner quoi, n'est-ce pas? C'est ça, ce qu'on appelle l'ontologisme. L'ontologisme. Il y a ma vie, voilà pour l'âme, je fais l'induction de l'âme. Il y a, par le jugement d'existence, le toucher de l'être. J'existe. Du coup, quelque part, mon corps se réveille, voilà pour la vie. Mon intelligence se réveille, contemplative, métaphysique, voilà pour le point de vue de l'être. Mais comme il y a une fêlure entre mon corps éveillé par l'âme et mon intelligence actuée par le point de vue du jugement d'existence, comme il y a une fêlure entre les deux, eh bien, il faut que je pose, pour réunir les deux, quelque chose qui dépasse et l'un et l'autre, et ce sera l'éthique. Mais ce sera une éthique sacrée, ce sera une éthique transcendante, ce sera une éthique. Et ça va donner Nietzsche, ça va donner Feuerbach, ça va donner Heidegger, ça va donner de l'ontologie, ça va donner Hegel. Remarquez, Hegel et Feuerbach, c'est cousin germain, puisque Feuerbach, c'est un disciple de Hegel. Hein. C'est comme Platon qui était un copain de Socrate, quoi. Mais il le suit, n'est-ce pas? Bon, mais essentiellement, Feuerbach, Hegel, Nietzsche, très très fort, Nietzsche. Une espèce de tragique qui prend tout, le sur-homme, vous voyez? C'est pas l'homme, c'est le sur-homme. Attention, c'est génial, Nietzsche. Mais il est impossible de comprendre la pensée nietzschéenne si vous ne saisissez pas que c'est une laïcisation de la foi chrétienne. Impossible, inexplicable, la position. La position de Feuerbach est inexplicable. J'ai étudié pendant 20 ans, je peux vous dire, ça, là, ce problème-là. Sartre, inexplicable. Vous pouvez étudier pendant 20 ans Sartre, si vous ne saisissez pas l'entelecheia et l'energeia et l'induction de l'ousia, pour voir la différence qu'il y a avec le point de vue de l'induction de l'âme. Si vous ne le saisissez pas, vous ne comprenez pas ce que dit Sartre dans la différence entre l'en-soi et le pour-soi. C'est impossible. Ça, j'en ai fait moi-même l'expérience et je peux vous affirmer, pendant 20 ans, j'ai étudié Sartre, ça a été impossible pour moi. Si, j'arrivais à piger ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas saisi la substance, si vous voulez, l'essentiel, le principe de Sartre, son principe directeur, son idée. Son idée, l'unique idée de base. Et l'unique idée de base, c'est une laïcisation de la foi chrétienne. C'est extraordinaire. Le surhomme, c'est la liberté. Alors, je mets là ici, au lieu de Christ, je vais mettre la liberté. Mais en fait, c'est la Bible, si vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire. Les idéologies modernes, les idéologies, je pars d'une idée, parce qu'il faut bien que la réalité du Christ devienne une idée, et il faut que je lui donne un nouveau nom. Je ne peux pas mettre Christ. Donc je vais mettre une autre idée. Nietzsche va dire art. Comme ça s'écrit art. Art. Sartre va dire liberté. Ça, c'est sûr être en soi pour soi. Vous voyez? C'est extraordinaire. Vous voyez? En soi, être propre. Et il montre par là qu'il met le haine et le prof métaphysique au niveau vital. Donc, il abandonne totalement la métaphysique. Et donc, il n'est plus philosophe. Il est idéologue. Ça, vous voyez, c'est le grand cri moderne de Glucksmann et Maître Penseur, le grand cri d'angoisse de l'humanité qui ne comprend plus, parce que ces maîtres penseurs ont menti, se sont menti à eux-mêmes quelque part, en prenant des idées au lieu de prendre la réalité comme base de la philosophie, et du coup, ils perdent pied. Alors, on rentre dans des systèmes logiques à partir d'une idée géniale. C'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, si on ne fait pas la métaphysique de l'être, et si on ne sait pas arriver à faire en sorte que notre vitalité d'intelligence humaine puisse retrouver sa nativité, son instinct, sa percussion, sa pointe, sa perfection dans l'induction de l'énergie, dans le tourne-éon, n'est-ce pas? Donc de l'acte, j'aime pas acte justement, de la perfection absolument métaphysique qui fait éclater le point de vue de l'être, du point de vue même de l'intériorité de l'être et de son propre intérieur, dans le jugement d'existence, si je ne fais pas ça, je suis totalement dépendant des idéologies. Et si je ne le fais pas, c'est devenu mortel pour l'intelligence humaine. Mon intelligence n'est plus contemplative, c'est devenu impossible. Alors, la seule voie d'échappatoire, c'est une espèce de remplacement. Et je vais rentrer, par exemple, si c'est sur le point de vue religieux, ce sera toujours éthique, hein, remarquez bien. Mais si c'est une éthique qui essaye d'aller jusqu'à l'absolu religieux, ben on va tomber quoi? Dans la symbologie, dans l'ésotérisme, dans des spiritismes très élaborés. Parce que le spiritisme très élaboré, c'est des esprits purs, séparés, hein, où je m'engloutis dedans, c'est vital, c'est pas l'être premier. Alors ce sera des gnoses. Hein. C'est immergé, ça vient de moi la gnose, hein. Ça vient pas de... C'est extraordinaire, on est immergé là-dedans. Il faut absolument, si vous voulez, qu'on retrouve quelque part une certaine autonomie contemplative, humaine, et la voie d'accès pour cette autonomie humaine, sinon je rentre dans des fosses mystiques, hein. Sinon je deviens mystico-dingo. Mystico-dingo, vous avez qu'à faire un pas dans la rue, vous faites « Bonjour madame ». Faites-le, moi je le faisais quand j'étais à Paris. Tu sais, tu connais pas, tu te promènes dans la rue, tu dis « Celle-là, elle y a droit ». Ouais. Tu sais, comme les trottoirs sont épais, tu n'es pas très large, enfin, à certains endroits, enfin, tu te débrouilles pour faire comme si tu étais comme ça dans ton idée. Hein. Et puis, tu fais « Oh pardon », tu vois, elle arrive là-bas, tu fais comme ça « Oh pardon ». Tu dis, bonjour madame, tu essaies d'entrer en conversation, parce qu'à cette époque-là, j'étais existentialiste. Pas? Alors, j'étais mounier, pas? C'était existentiel, enfin, peu importe, le personnalisme communautaire. Alors, donc, il fallait susciter la relation consciente, n'est-ce pas? Et puis, tu aperçois que, faites-le, vous allez voir, impressionnant. C'est une mystico-dingo. Mystico-dingo. Même chez Cato, hein. Chez Cato, il n'y a pas du tout ce point de vue du jugement d'existence, du réalisme tout simple, hein, qui fait qu'on voit notre cœur est éveillé, notre intelligence est contemplative, notre corps est spiritualisé. Bon, alors du coup, on s'évade dans des trucs. Oh là là, oui. Tu comprends? Dans des trucs complètement dingues. Alors que pas du tout. Vous voyez? C'est pas là. J'ai vu ça, t'as rien vu du tout. Faire attention aux projections mystiques, n'est-ce pas? Faire attention. Elles ont leur valeur si vous voulez, mais. Ça ne sanctifie pas. C'est pas vrai. C'est toujours relatif à des attentes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fondement quand même dans. Je ne dis pas, mais. Ça vous sort de la sainteté. Il faut se taire et laisser Dieu parler. Et laisser la réalité parler, voyez. Laisser la liberté, voyez, à la grâce de faire son travail de l'intérieur. C'est de l'intérieur du tombeau que le Christ est ressuscité d'entre les morts, je vous signale ça. Humainement, il n'y a pas eu de témoin. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, c'est une chose que je vous ai dit l'an dernier à Pâques. C'est un truc qui m'impressionne complètement. C'est complètement dingue, cette histoire. C'est complètement dingue, parce que les hommes de cette époque-là, bon, d'accord, il y a eu des phénomènes assez incroyables. Hein? Il y a eu quand même des phénomènes incroyables. C'était le dimanche matin, vers 3 heures du matin, à Jérusalem. Bon. Il y avait eu quand même la veille un truc un peu bizarre. Bon, on est d'accord. Et là, d'un seul coup, il y a cette espèce de légionnaire, un gros bidasse, là. J'ai une secte, c'est vraiment con, c'est vraiment pas possible, tout ça, complètement zaza et tout, bon allez on est là, et puis bon, ils étaient bien, des gros légionnaires, des gros hommes, ils n'avaient jamais eu, fait le jugement d'existence, hein. Enfin, le jugement d'existence, c'est légionnaire, je crois pas, et c'est le texte qui le montre, qu'ils n'ont jamais fait de jugement d'existence, qu'ils n'avaient pas la foi, ça c'est trop clair, mais ils n'avaient même pas fait de jugement, ils veillaient, ils faisaient leur devoir, ils étaient dans l'éthique, dans un monde religieux en Israël. Ouais, c'est extraordinaire, c'est tout à fait comme aujourd'hui. Quoi. Ils montaient la garde, et d'un seul coup, il y a eu un tremblement de terre. Pas exactement un tremblement de terre. Le texte dit « séismos ». Séismos. Un séisme. Vous savez que le séisme, c'est beaucoup plus fort qu'un tremblement de terre. Parce qu'un tremblement de terre, il y a juste une maison qui s'effondre. Parce qu'un séisme, c'est un cataclysme. Et attention, il n'y a pas marqué séismos. Il y a marqué, vous voyez, la relation avec la métaphysique, il y a marqué méga séismos. Putain, c'est pas possible. Métaséismos, vous voyez. Un séisme métaphysique. Et en même temps, avec c'était un séisme, quant au point de vue physique, mais méga. Donc, comme ils n'avaient jamais fait de jugement d'existence, ils sont tombés par terre, ils sont restés dans le coma pendant 3 quarts d'heure, quand même. Pas mal, hein, pour des gens qui n'avaient pas peur. Mais c'est la nuit, c'est tranquille, tu vois. Ils sont dans le coma. J'aurais dit, oui, tu sais, comme moi j'aime bien certains curés qui disent, oh, dans le premier évangile de la résurrection, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, personne n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Ah, merde alors. Méga séismos. Et puis, cette espèce de truc, d'énorme pierre, il faut être 10, 12, parce que pour le pousser, il faut être 3, tu vois, parce que. Mais pour y sortir, mon pote. Tu rigoles. Alors, cette espèce de pierre qui est projetée au moment de... Et en même temps, un angelos théou, un messager de Dieu, et alors, c'est dans le texte en français, c'est tellement lamentable que j'ai honte de dire comment ça a été traduit en français, descendit du ciel. C'est comme une feuille, tu sais. Ah, hein? Ça c'est la guimauve, tu sais, la guimauve ontologique, idéologique, waouh, comme une bouse de vache, l'ange descend, c'est ça, là, waouh, tranquillos, et il s'étale, tu vois, mais pas du tout, l'ange est extraordinaire, l'ange de Dieu est projeté, j'ai un terme, mais même projeté c'est pas assez fort par rapport au thème grec qui est très très puissant, il est, je sais pas, trouvez-moi un terme, j'en sais rien. Catapulté, c'est tout. C'est, et comme la foudre, fulgur, comme l'éclair, il y a l'aspect fulgurant. Et en même temps, il est revêtu, stole in lekein, donc d'un habit sacerdotal, stole, l'étole, vous savez, l'étole, d'un habit sacerdotal blanc. Puis alors, en même temps, alors les soldats, c'est dire, ils n'avaient jamais vu une apparition. Jamais. Ils n'avaient même jamais fait un jugement d'existence. Tu vois le problème? Ça les a mis dans un état, c'est vachement impressionnant, vous le savez bien, que la première fois que vous avez une expérience surnaturelle, ou même déjà métaphysique, ça fait un choc. Ça fait un choc, parce que dès que vous faites un jugement d'existence, et que la première fois de votre vie, vous faites l'induction de la substance, par exemple, le jour où vous le faites, tac, ça fait un choc. Pourquoi? Parce qu'il y a une reprise de l'aspect vital de votre âme qui, par le point de vue pointu, le plus pointu de l'esprit, se retrouve, j'allais dire, en possession. est actuée par le point de vue du jugement d'existence. Pour trouver l'unité métaphysique et vitale en même temps. Alors ça fait un choc quand même, une retrouvaille. Alors l'aspect tragique est encore là, mais ça y est, vous êtes réveillé. Il y a un premier triomphe de l'intelligence naturelle, sans la grâce, sans la religion. C'est extraordinaire, sans Dieu, toi tout seul, parce que tu es humain, c'est tout. Ton intelligence s'est réveillée. Mais eux, ils n'ont jamais fait ce jugement d'existence. Alors le choc est trop fort. Et ils tombent comme... La traduction française, je crois que vous avez entendu, ils sont tombés comme morts. C'est pas vrai, ils sont tombés dans un coma. Le terme grec, c'est ça, dans un coma. Ils sont tombés dans le coma. C'était trop fort, ils sont tombés dans le coma. Les femmes, elles, arrivent. Hein? Les femmes arrivent. Parce que c'est quand même génial, je trouve que ces femmes arrivent, là, avec plein de parfums et tout. Et puis, putain, merde, non, je ne sais pas si c'est essentiel, mais la pierre, hein, il y a l'ange, elles ont bien vu le tremblement de terre, c'est-à-dire, c'est le séisme, pardon, le séisme, méga-séismos, et puis, le fulgur angelos, hein, on avait une affaire d'otage, je ne sais pas si vous voyez, c'est dingue. Même l'Immaculée, quand elle a eu l'apparition de Gabriel, c'est même elle qui était complètement habituée à l'incréé, tu vois, et au créé, hein. Par la grâce, elle est toute bouleversée, dans un état de tremendum déjà. Elle était toute... Alors tu penses ces femmes-là, qui ne sont pas habituées à la réalité concrète, je veux dire, de l'être premier, vitalement présent, hein. Elles sont dans un état dont l'Écriture dit qu'elles sont dans un état de paralysie. Une espèce de, c'est pas le coma, mais c'est un espace de tremendum, fascinandum. Elles sont fascinées, paralysées. Et l'ange dit, n'ayez pas peur, vous. Vous n'ayez pas peur. Et il dit, allez dire aux apôtres, allez-y. Allez-y, dire aux apôtres. Et elles y vont pas. Elles y vont pas parce que... Oh, elles n'y arrivent pas. Parce que dès que tu as une apparition, hein, ça t'est peut-être pas arrivé très souvent, mais n'empêche que c'est vrai que dès que c'est vraiment réel, hein, je ne dis pas mystico-dingo, hein, mais que c'est réel, ben, je veux vous dire, tu ne tombes pas mort, mais pas du tout, mais tu quand même, tu peux pas partir, tu es complètement pris par ça. Et en même temps, tu es pris dans un état de tremblement, de délicatesse, tu as peur, tu es lié à ça. Il y a le ravissement sur-métaphysique. Alors, et du coup, elles ne partent pas. Elles sont pas habituées. Le corps n'obéit pas à l'esprit. L'esprit n'obéit pas au corps. C'est à cause de ça qu'il y a quelquefois ces phénomènes en Inde, etc. En Occident aussi, de lévitation. Pourquoi ? Parce que le corps n'obéit pas à l'esprit. Parce qu'il y a une rupture. Il y a vraiment une brisure là, entre le point de vue vital du corps, le point de vue spirituel, qui est complètement activé par la grâce. Marie-Madeleine, beaucoup plus habituée, hein. Donc au bout d'une demi-heure environ, ces femmes finalement arrivent à retrouver leur force. Et puis, mais Marie-Madeleine est hyper habituée aux expériences, je sais pas quoi, surnaturelles et tout ça. Tu parles, elle avait été possédée déjà d'un démon, un exorcisme. Puis après, elle est reglissée dans des bêtises. Donc elle a retrouvé une possession, un état de possession des puissances intermédiaires. Il a fallu que Jésus la délivre. Puis après, elle a eu des forces, des choses extrêmement fortes au pied de la croix. Très, très fort. Bon, elle s'est trouvée tout avec l'Immaculée. Donc, il y avait des phénomènes très, très forts chez elle, intérieurement, métaphysiquement, surnaturellement. T'es habitué? Donc, les femmes sont restées un peu paralysées. Et elle, a couru tout de suite. C'est ça qui est marrant. Elle est habituée, elle. Oui, alors nous, on est un petit peu entre... On est un peu détroit, si vous voulez. On est très habitué. En même temps, on n'est pas habité du tout, et en même temps, on est complètement dehors. Complètement dehors, on n'existe pas, on est mort. Le monde d'aujourd'hui, on est dans un monde qui est mort par rapport à ça. Tout ça, ça... Pff, non. On en fait partie de ça, si vous voulez, on ne peut pas renier, quoi. Il y a un côté où on est complètement pris par ça, c'est Marie-Madeleine, et ça nous fait courir. Et il y a un côté où on n'est pas en obéissance, en phase, en unité vitale avec ça. Vous voyez ? Il y a ce côté-là, vous voyez ? Mais tout ça, vous voyez, c'est des choses qui sont très intéressantes, parce que j'ai le droit de prendre ces textes grecs pour essayer d'illustrer, tant que possible, ce que c'est que l'ontologisme moderne. Puisque l'ontologisme, c'est une traduction dans le langage humain d'une philosophie chrétienne, d'une réalité expérimentale chrétienne, mais qui nie, enfin qui veut nier, en tout cas, le point de vue donc surnaturel de la grâce. Donc du coup, on est ramené à quelque chose qui va gonfler un point de vue humain vital, de manière ça va devenir monstrueux. C'est pour ça que l'Apocalypse dit qu'on aboutit à une pensée qui est une espèce de monstre rouge, une bête énorme avec cette tête. Et cette tête, c'est cette pensée qui crache un feu extraordinaire pour engloutir l'homme sur la terre. Et c'est la terre qui vient au secours de l'humanité et de la femme, pour que la femme ne soit pas dévorée par les sept idéologies athées. Et la terre, c'est quoi? C'est le jugement d'existence. Il faut revenir au jugement d'existence. C'est extraordinaire, ça. Hein? Parce que c'est très très fort, cette histoire. Aussi bien la réduction à l'ontologisme que la réduction donc, de la philosophie chrétienne produit l'athéisme, aussi bien la laïcisation du judaïsme produit une éthique absolue, hein, un espèce de phénomène de moralisation transcendantale, si je puis dire. On est coincé entre les deux. Voilà le phénomène contemporain. Notre milieu ambiant au niveau formation, manière de voir, etc. C'est pour ça qu'on est fait, c'est pour ça qu'il est, c'est sûr qu'il y a un problème. Hein. Donc revenir ici. Vous comprenez bien que. Donc ce que je voulais faire avec vous là, au départ, c'est, vous voyez, je suis encore dans mon introduction. Rappelez-vous. Donc c'est pour ça que cette petite introduction, c'est pour rappelez-vous votre expérience personnelle au point de vue surnaturel. Je dis bien surnaturel. Attention. Donc on n'est plus en philosophie pendant 3 minutes ici maintenant. 3 minutes, parenthèse chrétienne, s'il vous plaît. Si vous me donnez la permission, n'est-ce pas ? Votre expérience, c'est la première fois qu'on veut, depuis le mois d'octobre, je peux me permettre. Hein. Alors donc, vous êtes rentré, par exemple, dans l'Eucharistie. L'Eucharistie a pénétré en vous. Et puis, vous vivez par la foi, concrètement, dans le jugement d'existence de la foi, et votre propre jugement d'existence, une adoration en esprit, en vérité. Et l'Eucharistie, au moment où elle disparaît par la digestion, vous voyez 5 déploiements immédiats. Immédiats. Vous l'avez éprouvé, j'espère, plusieurs fois, vitalement, concrètement. 5 déploiements. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'absolument glorieux, il y a quelque chose qui vous lie à une très très grande tension dans la purification, l'Église, ça vous lie à la partie concrète de votre corps qui est lié à la vision, à la lumière de gloire, à la partie concrète de votre corps qui est lié de manière concrète à la vitalité séparée, hein, ce qu'on appelle l'Église souffrante, d'autres disent le purgatoire. Mais. Vous êtes lié à la vitalité concrète de tout ce qui est liberté en acte dans le monde, ce qu'on appelle les esprits généreux. Et puis, tout ce qui sont liés corporellement à la grâce. Vous voyez bien que tout ça, ça vient se réunir en vous, et votre corps vient, j'allais dire, unifier, rassembler, comme on mélange donc le jaune, le bleu, le rouge, etc., pour faire une seule couleur, le violet. Extraordinaire, le violet, la grande couleur extraordinaire de celui qui court vers. Et alors, ce violet va s'immaculiser, et vous voyez bien qu'il y a une immaculation universelle, et d'un seul coup, elle brûle. Voilà les 5 choses que vous expérimentez à l'action de grâce. Et le corps eucharistique de Jésus se transforme réellement, en présence réelle, en corps mystique de Jésus. Ça, on ne peut pas ne pas le sentir. Bon, donc, c'est notre expérience donc, quotidienne. Et effectivement, lorsque vous recevez l'absolution, c'est pareil. C'est pour ça, bon, c'est dommage. Moi, je voulais vous redistribuer. Vous rappelez qu'on avait fait donc l'Eucharistie, le sacrement de vin, le sacerdoce royal, tous les sacrements. Quoi. tous les sacrements, il y a 5 déploiements tout le temps. 5 grands déploiements. Tout le temps. C'est vraiment extraordinaire. Tous les sacrements, quand on vit, vous le voyez, bon, on n'y réfléchit pas, mais quand vous voyez dans le concret de ce que, la manière dont vous le vivez, mais vous dites, mais oui, mais en effet, c'est dans le sens de le corps, et d'un seul coup, d'une agilité, d'une subtilité extraordinaire, d'une luminosité parfaite, je sais pas, dans un temps fulgurant, c'est certain. Mais l'intelligence est complètement engloutie dans la lumière du mystère incréé qui dépasse complètement tout ce que l'intelligence peut concevoir. Ça y est, je vois. Notre cœur touche son terme, sa plénitude. On ne peut pas ne pas le voir, ça. Tout le devenir, tous les mouvements de la création s'engloutissent en vous pour trouver leur repos. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Vous voyez ? Et vous avez toujours ces cinq aspects qui apparaissent de manière totalement différente dans le fruit de l'Eucharistie, de la confession, du baptême, du sacerdoce royal. Vous voyez, on a fait ça. Vous avez bien vu qu'à chaque fois, tout le temps, on vit ça. Comment ça se fait ? Pourquoi, à chaque fois que je vis quelque chose qui est en même temps vital et qui en même temps dépasse le point de vue de mon âme, de ma vie, qui dépasse le point de vue même de mon être, dans le surnaturel, comment se fait-il qu'il y a ce déploiement dans ces 5 grandes directions ? Tout le temps. C'est vrai que la toute perfection métaphysique, alors là je reviens maintenant, je constate à chaque fois qu'il y a une perfection absolue au-delà de laquelle il est impossible d'aller, même surnaturellement, dans l'expérience des saints, par exemple. Pourquoi c'est toujours 5? Comment ça se fait, ça? Je m'aperçois que même dans ma vie concrète, indépendamment de la grâce, de la foi, de la religion, de la sainteté, même sur le point de vue concret de mon existence humaine, à partir du moment où j'ai fait effectivement mon jugement d'existence, que je deviens, que j'aime quelqu'un, que je suis contemplatif, hein, je saisis en elle, directement, concrètement et sans aucun doute, hein, une certitude totale, l'être qui unifie donc son principe vital, son corps et son esprit. Je saisis vraiment là, la personne. Je la vois. Et du coup, je suis attiré par elle, mon bien. Il y a vraiment un phénomène extraordinaire. Quelquefois, je perçois l'être en acte dans l'autre bien plus que lui-même ne s'y perçoit. N'est-ce pas ? Sinon, il n'y aurait pas d'amour. Et du coup, il y a tout un mouvement qui s'ordonne. Tout ce que je vais faire, toute mon œuvre, tout mon travail, va faire cette transformation de lui, de moi, de l'autre, dans quelque chose d'autre. La grande réalisation. Vous voyez ? Et il va y avoir ces grands déploiements. Même, vous voyez, dans le point de vue donc métaphysique quelque part, il y a toute chose que je constate être en puissance et être en acte. Vous voyez ? Il y a des choses qui sont en puissance et des choses qui sont en acte. Du point de vue, par exemple, alors là je vais reprendre, ici je suis en train de découvrir avec vous et d'essayer de regarder quels sont les 5 modes de l'énergéia, de l'acte. J'ai découvert le principe final par induction. On ne peut pas me dire que je ne l'ai pas découvert. Évidemment, quelqu'un qui n'a pas fait l'induction de l'acte, je suis tout à fait d'accord. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez. C'est ce que dit Freud. Freud, il le dit ouvertement. Dis-moi, c'est ce que dit Heidegger aussi, je n'arrive pas à faire l'induction. Et pourtant, tous ses élèves n'étaient admis dans son atelier en métaphysique, dans de philosophie, que s'ils étaient d'accord de regarder le livre Theta d'Aristote, l'induction de l'acte, dans le grec. Et il disait, j'arrive pas, mais il savait que c'était là le nœud de toute la métaphysique. Et que comme on avait perdu ça, bah, toute la philosophie occidentale, pour lui, est une glose de Platon, c'est une perte de l'aspect concret, de la vérité réelle, irréversible. contemplative, par laquelle l'homme est homme. Alors, il faut retrouver ça. Et il disait lui-même, j'y arrive pas. C'est pour ça que pour lui, il y a l'énergeia, il allait être en acte. Et pour lui, l'entelekeia est encore au-dessus de l'énergeia. Alors que je vous ai expliqué la dernière fois que c'est le contraire. L'entelekeia, c'est l'aspect de la perfection dans l'ordre de l'être qui est en moi enraciné et qui me fait induire par une induction analogique synthétique, induire l'être en acte qui transcende le point de vue de l'entélégie. Parce que, vous voyez, il est trop lié à Leibniz. Bon, je dis ça, je m'excuse. Oubliez tout de suite ces termes. Leibniz, c'est du chinois pour vous. Oubliez tout ça. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans une espèce de confiture soi-disant métaphysique qui s'est transformée en mystico-dingo-ontologico. C'est pour ça on dit la philosophie. La philosophie depuis à peu près 60 ans, c'est vrai, enfin plus exactement plus 140 ans à peu près, c'est vraiment les intelligences qui cherchent la vérité au point de vue métaphysique, au point de vue philosophique, qui se fusillent eux-mêmes. C'est une espèce de suicide extraordinaire de ce qui fait la contemplation humaine, ce qui fait l'homme, ce qui donne l'autonomie de l'homme par rapport à tout le reste, même par rapport à Dieu. Alors, c'est quand même très, très ennuyeux, ça. Il faut retrouver, donc, cette induction de l'acte. Et à partir de cette induction de l'acte, une fois que j'ai découvert l'énergeia, je m'aperçois que cette énergeia resplendit. Elle a un mode qui fait que j'existe corporellement en acte. Mais c'est vrai que je retrouve l'être en puissance dans mon corps tout le temps. Je suis, comme je vous disais tout à l'heure, métaphysiquement et vitalement, quelque part, je suis parfait métaphysiquement, mais en réalité, je suis une fripouille. C'est extraordinaire. Je suis en puissance, je suis en acte. Corporellement, c'est ça. Il y a la signification sponsale parfaite de mon corps, et en même temps, je m'aperçois que mon corps est une fripouille. C'est ça ? Dans ses actes. Dans ses actes. Dans son acte, c'est parfait. Dans ses actes, c'est une fripouille. C'est génial, je trouve. C'est ça le tragique. C'est ça le tragique. Le tragique nietzschéen, tragique du professeur Lipovski. Donc ce qu'on est, c'est zéro. C'est ce qu'il faut qu'on soit comme être, qui est la seule valeur pour Lipovski. C'était génial et moi j'aime bien ce mec-là. Bon, mais c'est de l'éthique, vous voyez. Il a laissé complètement tomber la métaphysique, la vie contemplative. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a de l'éthique. Le jour où vous faites un jugement d'existence, je vous le promets, vous n'avez plus de tic. Vous pouvez sourire. Hein? Quelqu'un qui ne sait pas sourire. Hein? Il se gratte la tête tout le temps. Nez, je ne sais pas quoi, les oreilles. Non, le sourire. Extraordinaire, c'est l'intelligence spéculative, contemplative, par le jugement d'existence sévère, et du coup elle rejaillit sur l'intelligence pratique, c'est le sourire. Parce que si l'entelekeia et l'energeia, l'acte dans l'ordre de l'être, la perfection dans l'ordre de l'être, ne rejaillit pas dans ces modalités de perfection métaphysique, à ce moment-là, je retombe dans l'idéalisme. Donc ayant saisi l'être en acte, il faut que je saisisse, que je suive cette Energeia dans l'ordre de l'être, ce qui finalise la plénitude de l'être, de l'intérieur même de l'être, tout en le transcendant, je la suis dans toutes ses modes d'être. Et c'est l'être en acte, ce principe source finale de perfection de l'ordre d'être qui va se manifester dans un mode d'être particulier. Et c'est Aristote, c'est vraiment très très fort. Je comprends pourquoi Heidegger était fasciné par Aristote. Alors il y a le corps. Qui dépasse la corruption, qui est animé métaphysiquement, spirituellement, vitalement, naturellement et personnellement. Ça, si j'en fais pas l'expérience de ce corps humain, de l'intérieur la signification sponsale de ce corps humain, signification énergétique de ce corps humain, si vous voulez, hein, on dirait au point de vue philosophique, c'est le grand drame. Et ce moment-là, c'est les boutons qui poussent, l'eczéma, ou les tiques, vous voyez, pas les tiques éthiques, hein. Vous allez regarder les cinq maladies du corps en fonction de la métaphysique de l'énergéia, c'est extraordinaire. Il y a, et je vous assure qu'il y a, quelque chose de vrai dans ce que je vous dis. Bon, je ne vous raconte pas des choses absurdes, j'espère que vous comprenez. Il y a donc le corps dans l'ordre de l'être. Vous voyez bien qu'essentiellement vous êtes une personne, induction de la substance. Que vous subsistez en l'ordre de l'être, indépendamment de votre vie qui est toujours accidentée, indépendamment des aspects périphériques hein, par lesquels une apparition, il m'aime, il m'aime plus, on s'en fout de ça. Ce sont tes impressions. Tes impressions, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que tu t'en fous? Ce que tu regardes, c'est la réalité. N'est-ce pas? C'est ça qu'il faut regarder. La vérité, dans la vérité, on trouve sa sécurité. Dans la substance, s'il y a, je vois que je subsiste, je suis individué, il y a quelque chose qui formellement fait que j'existe, quoi. Mais de l'intérieur de cet être, je m'aperçois que je suis substance. Et que cette substance fait que mon être subsiste. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour la tulipe. Je ne peux pas ne pas le voir, ça. Ben, Freud dit donc, moi, jamais vu ça. Il le dit ouvertement, il n'a jamais fait. Pour lui, le jugement d'existence, il dit, l'esprit ne s'est jamais actué, donc l'esprit n'existe pas. Alors il dit, lui, il n'a jamais fait l'expérience du jugement d'existence, hein, donc, ce qui fait le principe même de l'être humain, sa grâce, sa surnature, son absolu, c'est la libido. Énergie qui ne demande qu'à se déployer dans tout l'univers et qu'il ne faut surtout pas castrer. Il ne faut pas prendre le sécateur, sinon ça fait des névroses. Hein? Sinon ça fait... Oui, c'est une laïcisation quelque part, c'est vrai, de l'ontologisme chrétien, mais c'est marrant parce que lui, il prend la structure du laïcisme juif, donc c'est la circoncision quelque part, hein. Oui, c'est sûr. C'est cette espèce de schéma, effectivement, c'est curieux. L'influence sur la philosophie, c'est très difficile de comprendre les pensées philosophiques et puis ce qu'on écoute à la télévision, les petites propagandes, les petits mots, mais enfin je suis libre, quoi. Et puis attention, tu vas le traumatiser. Tous ces trucs-là, tous ces thèmes qui nous paraissent évidents aujourd'hui, qui sont des absurdités mentales concrètes, si vous voulez, elles viennent, tant qu'on n'a pas compris que ça venait d'une laïcisation de la pensée judéo-chrétienne. On ne peut pas comprendre. Mais pour le voir concrètement, je vous assure, faites le jugement d'existence. Donc à chaque fois je reviens, je m'excuse. Il faut que je revienne donc, jugement d'existence, induction de la substance, et puis à nouveau, je suis dans l'induction de l'acte, si vous permettez maintenant. Et je m'aperçois que essentiellement, ce qui fait l'essence, ce qui fait que je commence à respirer dans ma vie humaine, c'est le fait. Quand je saisis vitalement que j'existe et que je saisis vitalement, je comprends ce que c'est que la substance par l'induction. Là, je commence à respirer vitalement. Ça, c'est pour mon intelligence commence à... Ça y est. C'est extraordinaire. Toute la gangue qui tombe. La terre qui vient au secours de la femme. Mais ça, ce n'est que l'induction de la substance. Mais ça, je découvre donc ce qu'il y a de substantiel formellement en moi. La fameuse essence de l'homme. Mais déjà, de le voir en toi, c'est déjà pas mal. Si tu n'es pas capable de le voir en toi, comment le verras-tu sur l'autre, hein? Mais simplement, ce que je veux voir ici, c'est que si je reste au niveau de l'induction de la substance, finalement, comme là, beaucoup, beaucoup de philosophes, hein, qui vont jusqu'à l'induction de la substance, mais ils n'arrivent pas à faire l'induction. Heidegger, c'est typique. Typique. Encore qu'Heidegger fait attention, même l'induction de la substance lui échappe peut-être quelque part, mais il la touche quand même un peu. Mais l'acte n'y arrive pas. Donc il faut aller au-delà. Au-delà, on voit que mon essence, dont je jouis de manière contemplative, dans l'induction de la substance, que je me réveille, je commence à respirer de manière contemplative, de l'intérieur, puis en même temps par rapport à la réalité, telle qu'elle est, en tant qu'elle est, en tant qu'elle existe, je vois, quand je vis ça en refaisant un jugement d'existence de l'intérieur, qu'il y a quelque chose de tout à fait différent dans l'existence. Il y a une différence radicale entre l'essence et l'existence. Ça, rappelez-vous, même si vous n'y comprenez rien, essayez de comprendre quand même, rappelez-vous que ça, c'est un nœud. J'existe. Et puis, je saisis vitalement ma substance. Il y a une différence entre l'essence et l'existence. Parce que l'existence est en acte. Tandis que mon essence, c'est tout simplement, elle peut être en acte. Mon humanité substantielle peut être parfaite. Dans l'ousia, je ne saisis pas l'être en acte. Je ne saisis que l'essence, dans le jugement d'existence, vitalement, et en même temps dans le toucher de l'être. Il y a les trois. Mais je ne saisis pas l'être en acte. L'être en acte, c'est ce qui va avoir un mode de découverte grâce à l'induction de l'acte, je vais découvrir la différence qui fait éclater, je vais dire au point de vue de l'ousia, dans l'être en acte. Il y a une différence entre le fait que je suis substantiellement moi-même et le fait que j'existe, de l'existence. Je vous signale entre parenthèses que ça, c'est une chose, si vous le découvrez, si vous le voyez, ça, c'est du chinois pour vous ce que je dis là en ce moment ou pas? Mais si vous le découvrez, ça, je crois que vous êtes définitivement sauvé, si je puis dire, du point de vue de l'intelligence. Parce que vous faites le lien entre l'intelligence contemplative et le sourire. Donc, l'intelligence noétique, si vous voulez, humaine, spéculative, elle s'est réveillée, et en même temps, elle est pratique. C'est pour ça qu'elle sourit. En Dieu, parenthèse, pas, parenthèse du théologien, mais même le philosophe le sait, ce qui fait la caractéristique de l'être premier, c'est que son essence et son existence, c'est exactement la même chose. Parce que pour nous, ça n'a rien à voir. Si je n'ai pas fait l'induction dans l'intellekia de l'énergeia, je ne pouvais plus voir la différence métaphysique entre l'essence, la substance, la manière de se réaliser de la substance dans l'essence de l'homme, ce qui est le plus fort, et puis l'existence. Et donc, je veux dire, essence et existence, c'est la même chose, et je veux dire, ben, c'est l'homme qui est l'être premier. Donc, il faut que je sois ce qu'il faut que je sois dans l'être. Et ça, c'est Dieu. Et donc, c'est moi. Je confonds les deux. Lipovski. Hier. C'est extraordinaire, ça. Bon, c'est compliqué, peut-être. N'empêche que c'est pas si compliqué que ça. C'est parce que c'est les mots qui sont compliqués et on n'y est pas habitué. Mais ce que je voudrais, peut-être ce que je voudrais arriver à vous faire passer, c'est qu'il faut que vous puissiez le saisir, ça, hein, concrètement. Première modalité, je vous l'ai dit, le corps. Le corps a quelque chose qui dépasse le point de vue donc, du devenir. Voyez, et il y a quelque chose qui fait que le corps est parfait de l'intérieur du corps. Ça. Deuxième modalité, je viens de vous la faire. Le point de vue, donc, de l'être en acte, c'est je fais la différence entre l'essence et l'existence. L'essence est en puissance par rapport à l'essai qui est l'être en acte. L'existence actue l'essence. Si je n'avais pas découvert l'être en acte, je ne pourrais pas voir ce que c'est que la différence entre l'existence et l'essence. Impossible. D'ailleurs, si je ne l'ai pas fait, je ne peux pas faire la démonstration de l'existence de l'être premier qui est acte pur. Et donc, qui n'a rien de l'être en puissance quant au point de vue de l'être. Et donc, il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence séparée de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, c'est son essence. Parce que pour nous, notre essence, ton humanité, peut exister. Et on le voit bien, notre humanité, quelquefois, n'arrive pas à exister. n'arrive pas à exister en acte. Troisièmement, je vais m'apercevoir qu'en effet, dans ma manière, il y a une manière parfaite d'exister, c'est quand l'autre, quand je suis totalement sorti de moi-même dans une perfection absolue, l'extase. Dans le point de vue de l'amour, il y a quelque chose d'une bonté, d'un épanouissement absolu qui peut se réaliser. Le mode par lequel l'être en acte se réalise dans l'affectivité, dans le cœur, dans la volonté, c'est cette espèce totale actuation de mon amour. Dans le repos, dans un mouvement continuel et dans l'attraction. Ça se réalise de cette manière-là. Donc je m'aperçois, si vous voulez, qu'il y a une modalité. À chaque fois que vous verrez quelque chose, je vais mettre en latin, c'est encore mieux. Ça. Il y a quelque chose toujours, quand vous touchez quelque chose qui existe métaphysiquement en tant qu'il existe de manière substantielle, vous trouverez toujours un phénomène d'attraction absolue, un phénomène de repos absolu, et puis de mouvement absolu dans l'ordre de la continuité. Vous voyez, ça c'est ce qui va structurer d'ailleurs l'éthique. L'éthique, le bien. Voilà comment l'éthique rentre en métaphysique. S'il ne reste plus que l'éthique, philosophie moderne, c'est quoi? C'est de dire que le bien est l'absolu au-delà duquel il n'y a rien du tout. C'est un absolu, le bien, en éthique. Alors pour Lipovski, c'est la Torah, c'est l'homme face à Dieu, dans le culte de la Torah. Pour Nietzsche, c'est l'engloutissement dans la volonté de puissance pour réaliser le surhomme, voilà le bien. Pour Sartre, c'est l'anéantissement de l'en-soi dans le pour-soi, ou l'inverse d'ailleurs, parce que ça c'est un autre problème, etc. Mais c'est le bien qui est l'absolu. Tandis que dès que vous avez fait la métaphysique, vous voyez bien que le bien n'est pas l'absolu, puisque c'est seulement un mode. C'est seulement un mode, un des modes. Et vous voyez bien que si je fais de l'éthique un absolu, comme aujourd'hui, universel, vous n'en trouvez pas un seul. Hein. Ça fait 15 ans que j'essaie de scruter partout, je n'en trouve pas un pour lequel ce n'est pas une éthique. Tous, aujourd'hui. Si vous en trouvez un, écrivez-moi parce que ça m'intéresse. Et puis ça intéresse beaucoup la communauté, j'allais dire, de la pensée, de la sagesse universelle sur la Terre. Très important. Oui, bien sûr, des religieux, style pape, qui disent qu'il n'y a pas ça, mais ça c'est religieux. Et non, le bien n'est qu'un mode de l'être en acte. Et là, si je fais de ça l'absolu, fini. Le corps n'a plus de signification, n'a plus d'actuation, n'a plus sa perfection. L'existence est mise de côté dans son actuation. Il ne reste plus que l'essence, il ne reste plus que le côté un peu universel de la substance humaine. Exactement comme pour l'animal. La vie. C'est pour ça que vous avez Brigitte Bardot et tout ça. Mais non, mais ne rigolez pas, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, mais il ne faut pas rire, c'est tragique. C'est tragique, il faut sentir ce tragique senti par Nietzsche d'ailleurs. Hein. Il y a autre chose, vous voyez, c'est que, quatrièmement, la vérité. La vérité, c'est-à-dire ce qui fait le verrum, ce qui fait que notre esprit est dans son... reçoit complètement, attention à la vérité, c'est pas quelque chose qui est, je sais pas où. Hein? Le verrum de l'être en acte, la manière dont l'être en acte va jaillir dans l'existence selon un mode d'actuation qui implique l'énergeia métaphysique, ça va faire que mon intelligence, en effet, est complètement réalisée dans l'être qu'elle saisit, de l'intérieur même de l'être, et dans toute sa perfection. C'est une mode de réalisation de l'être. C'est l'état contemplatif de réalisme qui réalise une unité absolue dans la lumière, corporellement, vitalement, spirituellement. Verum. Cinquièmement, vitam. Dès que vous avez une réalité métaphysique par elle-même, elle est quelque part, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui fait qu'elle trouve un principe d'unité formelle, vitale. Est totalement informé par la lumière. C'est pour ça que Aristote dit que le cosmos est actué, n'est-ce pas ? Et c'est la lumière qui actue le diaphane cosmique. Pourtant, c'est curieux parce que vous voyez bien que le cosmos, il n'y a pas de vie au sens propre. Les planètes, où est-ce que tu vois qu'il y a une vitalité, une animation ? Et oui, alors c'est pour ça que quand vous tombez dans l'ontologisme, vous allez dire, ben oui, il y a une animation ontologique du cosmos. Oui. Et du coup, je vais tomber dans un ontologisme mystique par lequel je vais essayer de retrouver la vitalité cosmique par elle-même, la bodéité. La mode orientale, si vous voulez, c'est tout à fait le panthéisme, la gnose, l'ésotérisme, le symbolisme, etc. C'est pour diluer l'être dans le point de vue de la dilution vitale. Mon être, c'est effectivement une participation à l'être premier, mais ma vie n'est pas du tout une participation à l'être premier. Pas du tout. Quand vous entendez chacun de nous, on est une étincelle de Dieu. Hein? C'est pas vrai. Vous n'êtes pas une étincelle de Dieu. Vous êtes en puissance ce que Dieu est en acte, ça voudrait dire. C'est pas vrai. Ça voudrait dire que l'être de Dieu et votre existence, c'est la même chose. Vous n'avez jamais fait de jugement d'existence, c'est pas possible ça. De dire ça. Mais voyez bien que ici, le point de vue de la vitalité, pourquoi Aristote va dire qu'il y a cette unité, s'il y a bien quelque chose qui unifie, qui actue le diaphane cosmique, hein, bon, s'il dit ça, si je constate ça, parce que laissez Aristote de côté, c'est à vous de le faire, hein. Bon, vous voyez effectivement qu'il y a une vitalité. Eh bien, cette vitalité, elle vient de la présence vitale de l'être premier. C'est le rayonnement vital de l'être premier qui, effectivement, induit et engendre cette unité cosmique. C'est-à-dire pour ça que dans la matière, il y a un appel à la vie. Ça, on ne peut pas ne pas on ne peut pas ne pas le voir. Vous voyez que ça, c'est ce qui fait exploser l'évolutionnisme. Ça. Si vous êtes métaphysicien, ça y est, vous comprenez pourquoi il y a un appel dans la matière à la vie. Ce n'est pas du tout dans l'ordre de la vie. Parce que sinon, il y a un prolongement dans l'évolution cosmique jusqu'à un moment où, pof, et la vitalité apparaît. C'est comme dans le prolongement. Mais voyez bien que ce n'est pas dans le point de vue de la vie, c'est le point de vue métaphysique. Tant que vous ne l'avez pas saisi, vous tomberez dans l'évolutionnisme. Alors vous marchez la tête en bas à ce moment-là, parce que la contradiction scientifique est absolue. Hein, même au point de vue de la quantité, on voit que c'est faux. Mais pour nous qui sommes métaphysiciens, c'est l'évidence même. Hein. C'est quelqu'un qui dit, mais oui, j'existe, c'est totalement différent du fait que j'ai la vie. Hein. Tout de suite, vous voyez. Et en tout cas, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui relève de l'énergéia, et que vous suivez l'énergéia dans tous les modes de votre existence, ça s'épanouit dans les cinq directions. C'est ce qu'on appelle les cinq modalités de l'acte. Rappelez-vous toujours, hein, essai. Alors ça, bon, d'accord, si c'est la première fois que vous en entendez parler, ce qui est le cas général, je crois, parce que ça fait 2400 ans qu'on n'en parle plus, donc... Alors, donc probablement, quand vous n'étiez pas né. Alors, essai. Bonum. Je prends en latin, hein. Pas parce que je suis catho, hein. Verum, parce que je suis philosophe. Mais on va, si vous voulez, on fait en grec, hein. Moi je veux bien. Hein. Bon. Vita, la vie, connaît la vie. Et puis, bon, devenir, dans l'ordre du devenir. Bon, la fousie, dans le devenir. Le corps, vous voyez. Pour nous, êtres humains, on voit que notre corps, de l'intérieur à quelque chose qui est en puissance à une spiritualisation, et j'en ai le flash quelquefois, si je suis métaphysicien, et si je fais concrètement avec mon corps le sens, le jugement de l'existence, et avec mon intelligence simultanément, l'induction de l'acte. Je vois que ça rejaillit sur mon corps dans quelque chose d'assez extraordinaire. Mon corps s'ouvre, fondamentalement. Vital, il y a quelque chose de vivant, et cette vitalité est actuelle. Il y a quelque chose qui s'épanouit dans une vie parfaite. Il y a quelque chose dans le fait de faire l'induction de l'âme, c'est une chose, mais le fait de voir comment l'être en acte jaillit sur mon âme, c'est de l'intérieur de l'âme, il y a quelque chose qui fait que je saisis que mon âme est en puissance par rapport à son acte vital. Quand mon âme est vitalement en acte, substantiellement en acte, métaphysiquement en acte, elle, vous voyez que je suis ça à partir du corps, eh bien elle informe mon corps, mon esprit, dans l'unité absolue. Il n'y a plus rien en puissance, mais seulement, vous voyez, c'est fugitif. Mais il y a une tendance, il y a une tension vers cet être en acte point de vue, et qui produit cette vitalité-là, cette vitalité de perfection, cette perfection vitale. Bon, alors, en même temps, il y a le point de vue du verrou. Mon intelligence, je vois que mon intelligence, elle peut être contemplative, mais elle n'est pas tout le temps. Elle n'est pas totalement contemplative. Quand elle est contemplative, je vois que tout est relativisé et je comprends tout. Toutes les erreurs deviennent des vérités assumées. Le seul moyen de respecter toutes les erreurs, c'est que je trouve à quel point elles sont vraies, mais elles sont assumées dans l'unique réalité contemplative en acte. Ça c'est, vous voyez, c'est un truc que j'ai, qui m'a beaucoup frappé personnellement, parce que, bon, moi, j'ai toujours été intéressé par les penseurs, tout ça, je cherche la vérité depuis que je suis gosse. Et alors à 16 ans, je trouve ça génial qu'il y ait tous ces philosophes qui grouillaient de partout, c'est très à la mode, hein, en 66, c'était très, très, très à la mode, ça grouillait de partout, ça discutait ferme, dans les lycées, les collèges. Ça, c'était une période très extraordinaire, il faut bien le dire. J'ai eu du pot, je reconnais. Hein. Aujourd'hui, je suis un petit peu triste parce que je vois que j'ai plus l'impression de quelque chose d'amorphe. Mais à cette époque-là, il y avait une effervescence très extraordinaire. Et puis, on a regardé. Moi, j'étais fasciné par ça. C'était enthousiasmé, même. Bon, peut-être trop, faut pas, justement. Et à un moment donné, donc 20 ans après, le travail, etc., je fais pour la première fois de ma vie le jugement de l'existence, l'induction de l'acte. C'est incroyable, ça. Et des choses que pendant 20 ans, je n'avais pas pigé sur... Bon, je saisis une phrase, une autre, mais saisir la source, la lumière, qui explique tout. Vous voyez ? Tu peux rentrer dans la pensée de Sartre, tu peux rentrer dans la pensée de... Mais tu vois à quel point c'est un aspect. Mais du coup, tu saisis de l'intérieur par le principe d'un seul coup. Mais ça s'est fait en un an. En un an, il m'a suffi d'un an pour tout comprendre que pendant 20 ans, je n'avais pas compris ce qu'il disait. On cherche, mais d'un seul coup, c'est curieux, moi, cette expérience-là. C'est une expérience qu'on fait ou on ne fait pas, je veux dire, hein. C'est pour ça que je vous dis, bon, pour vous faire gagner du temps, si vous ne voulez pas paumer 20 ans, hein, faites d'abord le jugement d'existence. Qu'au moins, mon truc vous serve, quoi. Hein. Notre génération, elle a nagé dans la choucroute, ma génération, pendant des années, mais c'est effrayant. Vous voyez quelqu'un qui est né dans les années 45-50, par là, arrêtez-vous sur le trottoir, saluez-le, embrassez-lui les pieds. Sûr, c'est pas, ah oui, embrasser les pieds, il vous a fait gagner un temps fou, il en a bavé comme c'est pas permis, comme Marie-Madeleine embrasse les pieds de Jésus, c'est pas, ben oui, il passait par la mort, etc., à notre place, quoi. Alors profitons donc du fruit de ce travail, gagnons du temps, vivons d'éternité, ça c'est encore, je retombe dans le cateau. Alors, voyez bien, rappelez-vous, ces cinq déploiements de l'être en acte dans mon existence actuelle. J'existe en acte. L'être en acte, le bien, le vrai, la perfection dans l'unité vitale. Et puis, l'aspect du corps. Je m'aperçois bien que mon corps, il est là, mais mon corps peut se corrompre. Il peut ne plus exister. Il va tomber dans la corruption. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose dans mon corps qui relève de la puissance, la potentialité pure, la mort. Et puis dans mon corps, il y a quelque chose qui relève de la vitalité spirituelle, du perpétuel. Il y a bien les deux. Bon, je crois que ça, il faut le toucher, il faut le voir soi-même. Et une fois qu'on a vu cela, vous comprenez bien que tout ça, vous allez pouvoir enfin voir pourquoi vous allez vous ramener à nouveau. C'est l'être en acte qui explique toutes ces modalités. Mais toutes ces modalités vont, j'allais dire, spirer quelque chose actuellement dans votre, dans votre aspect concret, contemplatif, amoureux, corporel, vital et existentiel. Et du coup, vous allez trouver votre unité. Grâce à cette démarche contemplative de l'intelligence qui s'est éveillée humainement jusqu'au bout de toutes ces pures potentialités philosophiques, métaphysiques, vous allez pouvoir réaliser en sagesse votre unité de personne. Et vous allez pouvoir dire « Je suis ». Je suis. Jusque-là, vous ne pouviez dire qu'une seule chose. J'existe. Et vous ne pouviez pas dire je suis. Or, l'adoration naturelle, vous savez bien ce que c'est. L'adoration naturelle, c'est de dire, de mettre mon je suis dans le je suis de l'être premier. Donc, vous ne pouvez pas faire l'expérience mystique naturelle si vous n'êtes pas passé par l'induction de l'acte. Qui explique pourquoi on est orphelin, humainement, on est orphelin, on est sans force, par lié. On n'est pas relié corporellement, on n'est pas relié vitalement, on n'est pas relié véritablement, de manière contemplative, on n'est pas relié extatiquement, on n'est pas relié métaphysiquement. J'espère que vous voyez à quel point tout ceci explique pourquoi, si je n'ai pas trouvé mon je suis, je ne peux pas trouver le je suis d'un autre, ni le je suis de l'être premier. Et par conséquent, si je me marie, par exemple, pour prendre un problème éthique, j'aboutis forcément au divorce. Puisque ce qui domine, ce n'est pas l'être en acte, c'est l'être en puissance. C'est la potentialité. Pour le corps, c'est pareil. Je ne découvre pas mon corps spirituel. Donc vous comprenez pourquoi la philosophie première est quelque chose qui relève de la respiration la plus nécessaire qui soit. Parce que vous n'y serez pas aidé par l'éducation collective. Au contraire, l'éducation collective cherche à vous aspirer dans les idéologies. Et donc dans l'immanence de la raison. Ratiocinante, vous voyez, ontologique, dialectique. Et donc, vous retomberez immédiatement et irrémédiablement dans le primat de l'anathème, du non-être, dans le primat de la négation. Vous serez hegelien, vous serez nietzschéen, vous serez sartrien, vous serez existentialiste, vous serez évolutionniste, vous serez matérialiste dialectique, vous serez tout ça. Cette idéologie athée, tout ça. Et donc, vous serez dans ce qui va terminer toute votre démarche de recherche, parce qu'on continue à chercher, hein, même quand on ne fait pas le jugement d'exemple, on continue à chercher, on cherche à faire de la philosophie, on cherche à comprendre, on cherche à saisir, on cherche à vivre, on cherche à se réaliser, on cherche la vérité, on cherche l'amour, on cherche à exister, on cherche à ce que son corps soit en phase, on cherche à être dans ce qui actue tout un diaphane vitalement. On cherche ces saints tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais comme je n'ai pas fait le jugement d'existence, hop, où est-ce que je vais m'engouffrer? Dans l'anatement. Dans le primat de la négation. Et du coup, comme j'ai une aspiration, une nostalgie de la créateur de Dieu dans ma première cellule, je vais me donner une espèce de soif religieuse à cette quête. Sans que je m'en rende compte, c'est une soif religieuse. Et du coup, je vais mettre l'aspect de cette soif absolue religieuse dans le non-être. Du coup, je deviens bouddhiste. deviens bouddhiste.
Nécessairement, vous devenez bouddhiste, c'est-à-dire vous, le terme, la perfection absolue de tout, c'est quand votre être est totalement supprimé, vitalement, et que vous rentrez dans le suicide. C'est Sartre qui dit ça. C'est une citation de Sartre que je vous fais. Et vous, et exactement, je pourrais vous dire la même phrase du Dalai Lama. Hein. Je pourrais vous faire la même phrase de Sri Aurobindo. Tout à fait. C'est pour ça que c'est si important, vous voyez, qu'on avait démarré notre année avec le jugement d'existence pour voir, grâce à Heidegger, la différence qu'il y avait entre l'ontologisme heideggerien, qui bute, et puis le jugement d'existence qui arrive à l'induction, réaliste, concrète. Parce que l'ontologisme heideggerien, finalement, est une espèce de manifestation qui exprime notre manière, notre quête, et à l'intérieur des nostalgies métaphysiques, en raison de la mémoire ontologique, vous voyez, notre mémoire de notre premier moment dans l'existence, dans la cellule initiale. Eh bien, Heidegger, vous voyez, il rentre dans une perspective métaphysique qui précède l'aspect mental, vous voyez, et finalement, il est obligé de tomber dans le samadhi sans racine. Et Heidegger, je pense vous avoir suffisamment parlé pour que vous puissiez comprendre immédiatement que la pensée phénoménologique contemporaine, heideggerienne, dans ce cas-là de plus extraordinaire, est une laïcisation du samadhi sans racine que nous avons vu il y a 200 ans. L'être est préconceptuel. Alors, ça veut dire que le terme absolu de l'humanité, c'est le samadhi sans racine. Autrement dit, faites du yoga, faites de la méditation transcendantale, le feu d'en bas. C'est l'infer qui commande. Vous voyez ? C'est extraordinaire, ce n'est pas l'être premier. Et si nous voulons donc retrouver ce réalisme, il faut vraiment reprendre le jugement d'existence. Application pratique. Bon. Très optimiste, parce que regardez là, d'un seul coup, il y en a 40 qui vont faire des jugements d'existence. Application pratique. Mais c'est considérable. Mais c'est considérable. Mais vous n'imaginez pas ce que ça représente. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'humanité. À chaque fois que l'humanité s'est réveillée, ça a toujours commencé avec deux ou trois. C'est quatre générations après que ça fait 2 milliards d'êtres humains. Tout. Aristote, il sait quoi, quelques-uns. Mais, ça y est, trois générations après, c'était toute la Grèce qui était métaphysicienne. Il a fallu attendre Plotin, les stoïciens en éthique, puis Plotin en mystique, pour retomber dans l'ontologisme. Donc, quand même, Plotin, c'est quand même 5 siècles après, là. Enfin, heureusement, on a encore ce patrimoine de sagesse. Bon, mais prenez par exemple Jésus, il faut citer quoi, combien? Oui, j'ai... Franchement, j'ai trois. Il y avait Jésus, il y avait l'Immaculé, il y avait Saint Jean qui ne comprenait rien. Bon, d'accord, là c'est autre chose, Jésus. Mais philosophiquement, c'est intéressant, Jésus. C'est un homme quand même. Et alors, humainement, c'est intéressant. Enfin, mais il n'y a pas que. Mais prenez encore des philosophes, d'autres philosophes. C'est rien du tout. Occam, dans le sens contraire, Occam. L'essence, c'est l'existence. C'est ça ? Occam. Occam, je vous rappelle, hein, si vous n'avez pas la date d'Occam, 666, deux fois, 1332. L'être, c'est l'idée que j'ai de l'être, qui commande l'être. Eh bien, deux générations après, toute la civilisation occidentale était occamienne. Deux générations après, Descartes. Et aujourd'hui encore, on est occamien. Et ça, c'est terrible que cette espèce. Et vous avez. Occam, c'est vraiment la clé de voûte hein, pour comprendre. Hein. Ça, c'est sûr. C'est lui qui a inversé totalement
le jugement d'existence.
C'est très extraordinaire. Alors, bon, et nous, ici, on est quelques-uns, vous voyez, on est quelques-uns, mais ça, c'est extraordinaire. Prenez, par exemple, le Jean, Karol Wojtyla. Je ne prends pas le pape, hein, je ne prends pas le croyant, je prends uniquement le philosophe. Il était professeur de philosophie. Il découvre la signification sponsale du corps. Humainement. Et là, qu'est-ce que c'est? Comment le corps est animé métaphysiquement, spirituellement, quand c'est un corps féminin, quand c'est un corps masculin, et quand c'est l'humanité parfaite dans l'unité des deux? Comment tout ça, ça se réalise, ça s'actue? Il le découvre. Ben, je peux vous dire que dans deux générations, tout le monde vivra de l'unité sponsale. Et je peux vous dire aussi que pendant des siècles, on ne savait pas ce que c'est, et très, très rares étaient ceux qui en faisaient l'expérience. En tout cas, chez le monde masculin, pour prendre notre génération moderne, pour parler de la sexualité, puisqu'il faut toujours un petit peu donner un petit aiguillon, ça c'est excitant, alors... Côté sexualité, bon, ben, la masculinité, aujourd'hui, fonctionne plus. C'est un phénomène nouveau, hein, je suis tout à fait d'accord, c'est un phénomène totalement nouveau. La sexualité fonctionne plus. Hein, c'est une passoire. Les femmes ne peuvent pas ne pas le voir, que les êtres masculins sont devenus des passoires. La signification sponsale du corps masculin est perdue. Je me rappelle que quand je disais des trucs, quand j'étais adolescent, eh ben, il y avait des trucs, mais on considérait vraiment ça, par exemple, ce qu'on appelle l'onanisme, hein, donc la masturbation, comme une maladie, hein, ça se traitait, hein, ça se traitait, c'est une maladie. C'est une maladie, normalement, les sécrétions masculines sont assumés, transformés en énergie vitale. On appelait avant ça, donc vous le savez, la sève humaine, la virilité. Mais allez me trouver un bonhomme, amenez-le-moi. D'ailleurs, les médecins le disent aujourd'hui, bon, ben, c'est 99,9%, même 102% qui... Bon, écoutez, ça, c'est un phénomène de société, ça. C'est un phénomène, ça n'existait pas avant. Bon, on évaluait, je crois, d'après les statistiques sociologiques, etc., médicales et compagnie, à 7-8% les masculins qui fonctionnaient comme ça aujourd'hui. Donc il y a eu un renversement invraisemblable de la signification sponsale du corps masculin, qui n'a plus du tout les mêmes mécanismes. Et la finalité naturelle de la sexualité masculine a disparu. Très impressionnant. Très impressionnant. Quant à la féminité, alors là, n'en parlons pas. Je préfère. J'aime trop la femme, alors sinon, moi je préfère rester philosophe, donc sinon ça me fait pleurer et je pourrais pas l'exprimer, tellement je suis bouleversé. Alors, ce que Karol Wojtyla découvre sur la signification sponsale de la féminité, corporellement parlant, la signification sponsale du corps masculin et la manière de réaliser l'humanité intégrale dans l'unité sponsale, je vous affirme que ça vient d'un seul bonhomme. Bon, lui, il a de la chance, il a une tribune quand même assez intéressante pour annoncer sa découverte philosophique. Hein. Mais dans une génération ou deux, c'est fini. Ce sera terminé, cette espèce de brisure, de destruction, de suicide de la masculinité, de la féminité dans le corps. Ce sera fini, ça j'en suis sûr. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il faut toujours chercher la vérité. Dès que vous touchez le jugement d'existence, vous pouvez voir « j'existe », vous pouvez déjà faire un début d'acte d'adoration, « ah, je suis suspendu à l'acte premier », et du coup je mets ma vie dans la même dépendance. Mais ça c'est bien, ça c'est pour apprendre tout le temps philosophiquement à faire des jugements d'existence. Mais maintenant, si vous vivez ça de manière contemplative, et parfaite, corporellement, vitalement, contemplativement, extatiquement, et métaphysiquement, actuellement, alors à ce moment-là, vous trouvez votre « je suis ». Et vous pouvez mettre votre « je suis » dans le « je suis » de l'être premier. À ce moment-là, c'est une communion de personnes. Et à ce moment-là, vous rentrez dans l'expérience métaphysique naturelle de la mystique humaine fondamentale. À ce moment-là, vous pouvez voir que quand vous mettez votre je suis dans le je suis de Dieu, vous êtes vraiment en puissance et à la fois en acte, et qu'en même temps, il y a ce passage à faire, et que ce passage, vous le réclamez dans l'adoration naturelle. Ce passage, c'est celui de la grâce. Vous réclamez un rédempteur. Vous apercevez, c'est là que vous vous apercevez qu'il y a une fêlure métaphysique. Et que vous avez besoin d'un rédempteur. Mais même, il y a des gens qui peuvent vivre cette mystique naturelle sans réclamer le rédempteur. C'est le sommet de la philosophie, ça. C'est quand on a la découverte de la personne dans l'aspect, dans une adoration vis-à-vis de l'être premier, qui est une adoration actuelle, réaliste et vitale. C'est le sommet de la philosophie, ça. C'est incroyable comment, en métaphysique, on passe de l'aspect le plus initial, le plus fondamental, le plus élémentaire, à l'aspect final, très très vite. Vous voyez, c'est la métaphysique, c'est vraiment la petite pierre, le petit galet qu'il y a dans la fronde de David pour tac dans le front de Goliath. Une espèce de truc énorme. Un soldat énorme. Le philistin. Pouf! Le petit mec de rien du tout, David. Pouf! Pouf! Tac! Ça, c'est la métaphysique, ça. C'est la philosophie première. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.